Alors, on pouvait évidemment ne pas parler du jeu sans parler des ludothèques. L'idée de cette journée, c'était aussi de rapprocher, de créer du dialogue entre les ludothécaires et les bibliothécaires et d'imaginer peut-être des passerelles possibles dans nos pratiques en termes de compétences. Donc, j'appelle sur la scène pour parler de cette question ludothèque et médiathèque et des convergences possibles, Caroline Macosa, Johan Bourion, Josette Hospital et Isabelle Guillonneau, donc qui vont nous parler et échanger sur la question voilà, des passerelles, des porosités qu'on peut imaginer entre les ludothèques et les médiathèques.
Alors, moi je suis Caroline Macosa, je dirige la ludomédiathèque de Fos, donc l'autre ludomédiathèque. Après on peut se tirer la bourre avec Evelyne ou Isabelle pour savoir qui c'est que c'est la mieux, mais tout le monde le sait, donc on va pas... Donc à la ludomédiathèque de Fos, nous sommes tous ludomédiathécaires, moi y compris, et on m'a chargée donc d'animer cette table ronde donc qui s'appelle Ludothèque et médiathèque, différence, complémentarité et convergence, qui est carré d'ailleurs comme la plupart des tables rondes. Donc quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à m'intéresser aux jeux dans les bibliothèques, j'ai rencontré tout un tas de ludothécaires, c'était très intéressant. Et j'ai aussi senti très vite, et puis je pense que vous aussi, un peu de méfiance, un peu de défiance. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces bibliothécaires, à marcher sur nos plates-bandes, à nous piquer notre boulot, à nous manger la laine sur le dos, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué beaucoup. Et beaucoup progressé le jeu en bibliothèque et j'en suis ravie. Donc on a autour de cette table trois invités qui vont aussi nous donner leurs sentiments sur cette situation-là. Donc Josette Hospital, donc vous êtes ludothécaire, donc fondatrice de la ludothèque Odissu d'Ablagnac et une vraie militante pour la cause du jeu. Mais si. Des ludothécaires. Et vous avez été notamment présidente de l'ALF entre 2011 et 2013. Johan Bourion, vous êtes directeur adjoint de la Bibliothèque municipale de Bordeaux et vous vous êtes engagé dans un processus de développement du jeu à la Bibliothèque de Bordeaux. Et enfin, Isabelle Guillonneau, ludomédiathécaire, à la régionale de l'étape, hein, à Saint-Médard-en-Jal. Alors, ma première question, elle est pour vous, Josette. Vous avez travaillé sur les fiches de poste de ludothécaire, sur la fiche de poste de ludothécaire, donc qui est faite maintenant, qui est réalisée. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Et est-ce que vous vous êtes inspiré du métier de bibliothécaire aussi, ou comment vous avez travaillé déjà pour la définir ?
Alors, je tenais à dire que ce travail sur la fiche métier de ludothécaire est un travail collectif qui a pris de nombreuses années, qui a été mené au départ par le laboratoire Experis et Nathalie Roucous notamment. À un moment donné, cette fiche métier avait du mal à aboutir, à naître vraiment, et à être un document dont tout le monde attendait la venue, puisque pour créer des postes de ludothécaire dans des collectivités territoriales ou des associations, il est toujours difficile de définir un poste. Donc quand un profil est défini pour tout le monde, il est plus facile à ce moment-là de recruter des personnes compétentes. Donc ce travail a pris pratiquement, je ne vais pas dire une dizaine d'années, mais presque. Donc il est arrivé un moment où j'arrivais en fin de carrière et je me disais que cette fiche métier devait sortir. Et donc avec l'aide de d'Annie Garotto, qui a créé la première formation universitaire, et également de personnes ayant participé au collectif de ce travail sur la collecte des informations. Ce collectif était formé de ludothécaires experts et de responsables de formation, notamment Cholet, Bordeaux, Paris, c'était Caravanserail à l'époque. Et nous avons décidé à deux ou trois, avec, en se faisant aider par une personne du laboratoire, comment on appelle ça, des métiers, disons, au CNFPT, qui nous a aidé à mettre en forme cette fiche métier. Et naturellement, on s'est un peu inspiré de la fiche métier des bibliothécaires pour cette mise en forme. Mais c'est tout, parce qu'on parlait des différences. On va peut-être y arriver donc dans la question suivante. Les différences sont quand même, ou plutôt les... Peut-être ce qui est commun aux ludothèques et médiathèques, c'est toute la partie gestion du fonds. Et tout à l'heure, Madame Legendre en a parlé, en parlant de la complexité de cette gestion du fonds. Et il faut dire que là, la différence est énorme entre la gestion d'un fonds de bibliothèque et la gestion d'un fonds de ludothèque.
Et pour toi, la différence fondamentale,
ouais.
Ça serait quoi ?
Alors, la différence fondamentale, pour moi, c'est d'un côté, vous avez une activité solitaire et de l'autre, une activité collective. Tout à l'heure, j'ai entendu parler également du côté bruyant du jeu. Bah, la lecture, ce n'est pas bruyant, sauf s'il y a une lecture à haute voix, mais elle ne sera quand même pas bruyante. Le jeu est bruyant, c'est spontané. Donc, même nous, ludothécaires, on peut s'emporter facilement si on se laisse prendre par le jeu. Donc voilà, il faut en tenir compte au niveau des aménagements des espaces. Après, j'avais noté d'autres différences. La lecture fait partie des apprentissages obligatoires. Le jeu, non, puisqu'il est spontané. Alors après, il sera encadré, il peut être encadré. On peut transmettre des règles de jeu, mais le jeu est spontané. Donc ça, c'est aussi une énorme différence. D'où la difficulté à faire reconnaître notre métier, puisque d'un côté, il est indispensable, et de l'autre, un peu moins, même si on sait que le jeu participe à l'épanouissement de l'individu.
D'accord. Alors, on connaît tous le métier de bibliothécaire, enfin j'espère pour ceux qui sont bibliothécaires, on connaît un peu mieux le métier de ludothécaire maintenant. Mais alors, toi, Isabelle, quel est ton métier ?
Alors, je pourrais répondre en un mot et dire bibliothécaire, et voilà. Mais c'est pas très intéressant. Effectivement, je suis de formation bibliothécaire avec un DU de littérature de jeunesse. Auparavant, j'avais 8 ans d'expérience, on va dire, en animation, en centre de loisirs, BAFA, BFD, etc., le parcours classique. Et quand Evelyne a commencé à parler du projet de Ludo Médiathèque, effectivement, moi, j'ai vu comment pouvaient converger mes expériences professionnelles vers ce type de structure. Donc oui, je suis bibliothécaire, mais toute seule, je ne ferai pas grand-chose. Donc je vais rebondir sur les métiers qui m'entourent et avec lesquels je ne peux pas faire autrement pour développer une ludomédiathèque. Donc j'ai effectivement une animatrice multimédia, mais qui était aussi sur du livre auparavant, donc parcours de bibliothécaire aussi. Et je travaille avec deux ludothécaires, Adrien et Céline, qui sont maintenant des ludomédiathécaires, effectivement, le vocable évolue, et qui sont capables aussi de répondre sur du livre, de renseigner le public. Donc à la fois, on a tous un métier de base, mais nous sommes polyvalents et sur une petite équipe de... Alors nous sommes 4, mais 3 postes et demi, sur une structure comme une ludomédiathèque qui accueille autant de monde, la polyvalence est effectivement indispensable. Donc les ludothécaires se sont mis, je ne vais pas dire à lire... lisaient déjà, mais se sont mis effectivement à la DIY, au catalogage de livres, sont capables de se débrouiller avec effectivement du livre. Et les bibliothécaires et Frédéric et moi-même, régulièrement, sommes formés sur le jeu parce que, quand mes collègues du réseau des médiathèques viennent aussi travailler avec nous à Cap-Ouest, on s'en rend compte, quand les ludothécaires ne sont pas là, les bibliothécaires tremblent. Donc il faut qu'on se prépare et régulièrement ils nous préparent et j'espère qu'il y aura de plus en plus de formations autour du jeu pour les bibliothécaires parce qu'on est vraiment démunis quand les ludothécaires ne sont pas avec nous. Voilà. Donc un métier mais plusieurs facettes et une équipe polyvalente sur ces métiers.
D'accord. Et alors toi, Johan, vous avez, tu vas nous parler un peu de la manière dont vous avez... envie de développer, ou vous avez déjà développé le jeu à Bordeaux, et puis je crois qu'aussi vous avez en projet de créer vous aussi un nouveau métier, un truc, préparer vos CV, les étudiants, il y a un truc peut-être intéressant qui se prépare.
Oui, alors je m'excuse pour ma voix, un peu dû à un coup de froid, mais je rassure, la mairie de Bordeaux chauffe ses espaces et ses établissements, c'est pas un coup de froid pris dans la bibliothèque. Alors le jeu, on ne va pas faire remonter à l'Antiquité non plus, mais pour faire un peu de proto-histoire de l'offre-jeu. Alors comme disait Baptiste, il y a de l'offre ludique avant le jeu, même la bibliothèque, puisque dans les espaces jeunesse, finalement avec toutes les animations, toutes les propositions autour du conte, il y a forcément une offre ludique derrière, une interactivité. On parlera peut-être de différents aspects du jeu, notamment le jeu symbolique. Et donc ce jeu symbolique forcément existe dans la bibliothèque. Mais vraiment, l'arrivée du jeu, c'est lié à une réflexion sur les bibliothèques éphémères, il y a maintenant 5 ans, puisque la bibliothèque décide d'ouvrir quelques points dans sur la commune de bibliothèques qui durent 6 mois ou quelques mois dans l'année. Et ça part de ce qu'on appelait le bibliobateau, qui était une bibliothèque qui a duré 6 mois sur l'iBoat, donc sur le bassin à flot. Et on installe pour la première fois une offre de jeux vidéo. Donc, vous voyez, ce n'est pas précurseur, mais ça a apporté quand même un nouveau public. Alors là, on est un peu, ce qui est classique aussi en bibliothèque, je pense, dans un peu l'offre alibi. C'est-à-dire qu'il y a cette réflexion de dire on met du jeu parce qu'on est moins fort en termes de statistiques sur le public adolescent. Il n'y a pas encore cette prise de conscience, je trouve, de dire que le jeu vidéo est légitime en tant qu'industrie culturelle ou offre culturelle comme les autres. Donc c'est un succès et il y a une réflexion qui s'engage sur le jeu vidéo à la bibliothèque. Alors c'est intéressant de se dire finalement que, alors que dans l'histoire le jeu vidéo arrive après le jeu de plateau, le jeu de société, finalement le jeu vidéo va avoir plus de succès, en tout cas va irriguer plus, et on le voit dans les bibliothèques françaises notamment, il y a plus quand même d'espaces jeux vidéo aujourd'hui que d'espaces constitués en tant que tels sur les offres de jeux de plateau ou de jeux de société. Pour en avoir discuté avec les collègues, il y a peut-être quelque part quelque chose de rassurant sur le jeu vidéo, dès lors que c'est un document, que c'est traité comme un document, et que c'est uniforme quelque part, puisque un jeu de PlayStation ressemble formellement à un autre jeu de PlayStation, alors que finalement, ou de Xbox, hein, je ne veux pas faire de publicité. Alors que finalement, le jeu de plateau, le jeu de société, est traité comme un objet, finalement, pas en tant comme un document culturel.
Oui, et évidemment, peut-être aussi, on avait introduit l'ordinateur, déjà.
Oui, oui. Du coup, c'est aussi... On va le voir à la bibliothèque de Bordeaux, hein, on est comme les autres, on a traité, et ça va changer, je vous expliquais ça, mais on a traité effectivement le jeu vidéo sous l'angle du numérique, au départ. Hein, parce qu'on essaye justement de changer cette vision-là.
Alors, explique-nous ça.
Alors... je vais sauter quelques étapes alors pour expliquer un petit peu. Oui, alors évidemment, il y a maintenant, on a du recul. Le jeu société est arrivé aussi à la bibliothèque. On a plusieurs projets. On a un espace qui accueille des jeux de plateau à la bibliothèque Mériadec. Il y a des projets aussi, notamment à la bibliothèque Codéran qui va ouvrir en 2018. Et donc, il faut traiter aujourd'hui absolument le jeu en tant que tel et pas sous un angle. Biaisé quelque part, notamment le numérique. Donc on est dans une grande phase de réflexion qui va se concrétiser, j'espère, de réorganisation de la bibliothèque, notamment de la refonte de l'organigramme, et on va créer un poste spécifique, transversal, qu'on a appelé chargé de l'offre ludique, ce qui est assez novateur en somme, parce qu'il y a dans la profession, dans les bibliothèques, des postes spécialisés, mais souvent c'est des postes spécialisés d'un espace. Il y a un responsable de l'espace jeu ou jeu vidéo. Nous, on le conçoit comme un poste transversal. Ce que je n'ai pas précisé, hein, mais quand on parle de bibliothèque de Bordeaux, c'est 11 établissements sur l'ensemble de la commune. Donc un poste transversal pour coordonner à la fois les espaces jeux de société, les jeux vidéo, la politique documentaire aussi, puisqu'on a un fond tournant de jeux vidéo. Hein. On voit, c'est assez volatile aussi les envies en jeux vidéo. Donc on n'a pas un fond dans chaque bibliothèque. La quasi-totalité des bibliothèques de Bordeaux ont des jeux vidéo ou des espaces dédiés. Et donc il y a un fond tournant, un fond central en fait, où chacun va piocher. Donc il y aura cet aspect de politique documentaire. Donc voilà, donc c'est important pour nous de créer ce poste qui sera à cheval sur la politique documentaire, l'animation, la gestion d'espace. Voilà. Alors aujourd'hui, l'offre à la bibliothèque de Bordeaux est sur 3 aspects, il y a 3 enjeux pour nous, donc les espaces j'ai un peu dit, et dans la réaménagement de la bibliothèque de Mériadec, il y a encore des interrogations puisqu'il y a une requalification il y a quelques années, la requalification n'est pas complète, il y a encore des espaces aménagés, notamment dans les espaces d'accueil, et une des pistes, c'est pas encore acté, mais une des pistes de créer un vrai espace jeu intégrant à la fois les jeux de plateau et les jeux vidéo. Et donc de déconnecter en fait aujourd'hui les jeux vidéo de la bibliothèque Mériadec qui sont pour la partie adulte dans un espace qu'on appelle le NUM, donc très fortement coloré et numérique. rapprocher aussi tous les espaces jeux, puisque là, je parle de NUM, il y a aussi le petit NUM qui est un espace identique à la bibliothèque et des enfants. Donc vous voyez, le jeu vidéo est vraiment dans tous les espaces. C'est un enjeu aussi d'animation, on y reviendra peut-être, mais effectivement on a des liens assez faibles avec les ludothèques. Mais pour les animations, on s'appuie assez souvent sur des associations spécialisées, voire des ludothèques. Et puis, j'insisterai peut-être un peu dessus, parce que c'est assez rare quand même, on utilise le jeu comme vecteur de communication et comme bibliothèque productrice de contenu. Alors, c'est vrai qu'on dit, c'est un enjeu aussi fort, il y a eu beaucoup de formations là-dessus, le bibliothécaire est-il producteur de contenu? Eh bien, la bibliothèque de Bordeaux, et en collaboration, c'est l'occasion de saluer l'IUT, justement, gestion animation de ludothèque, qui a fortement participé au projet, on a créé un jeu dans le cadre d'une exposition. Donc, vous savez peut-être qu'il y a une grande exposition rétrospective sur Montaigne en ce moment. Et dans la création de cette exposition, il y avait vraiment l'envie de faire bouger les lignes, de décloisonner un petit peu le monde du patrimoine et de présenter la vie de Montaigne sous un angle plus ludique. Et l'idée des collègues du patrimoine, c'est de dire, bah, finalement, puisqu'on fait un peu bouger les lignes, puisqu'on fait quelque chose d'un peu iconoclaste par rapport à ce qui se fait en matière de patrimoine, généralement dans les bibliothèques classées, au lieu de faire un catalogue, on va produire un jeu sur la vie de Montaigne. Donc c'est un... Donc je vais le montrer. Voilà. Donc c'est aujourd'hui à l'état de prototype. On a 4 prototypes qui tournent dans le cadre de l'exposition. Donc vous pourrez tout à l'heure le voir peut-être à la pause et regarder de plus près. Donc c'était fait, comme je disais, avec l'UT voilà, qui nous a fait bénéficier de ses compétences, les compétences de ses étudiants. Un créateur de jeu qui s'appelle Serge Combat, et puis des collègues de la bibliothèque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément des collègues spécialisés dans le patrimoine ou des collègues spécialisés dans le jeu qui ont participé. Je pense à une collègue qui s'appelle Mathilde, qui est dans l'assistance et qui n'est pas du tout dans le domaine. Mais justement, par intérêt, certains collègues ont pu s'investir. Donc c'est une autre approche qui est intéressante, et on se sert finalement du jeu, là vraiment, comme un outil de médiation des collections et de médiation du patrimoine, très fort en fait, hein, parce que peut-être qu'en jouant, là finalement, les usagers, les personnes qui vont venir visiter vont apprendre plus finalement qu'à la lecture simple d'un catalogue d'exposition. Voilà, bon, j'étais long, je vais arrêter.
Non, mais on a bien compris. Toi, Josette, en entendant tout ça, déjà, est-ce que tu es sollicitée par les bibliothécaires, ou toi ou d'autres Josette, mais tu dois être au courant, j'imagine, puisque je suppose que tu es toujours active dans l'association des ludothécaires. Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, vous, dans le monde des ludothécaires, de voir la manière dont appréhendent les bibliothèques, dont ils organisent le jeu dans la bibliothèque de manière très différente, hein, tu l'as vu, on ne fait pas tous la même chose. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors je vais prendre la première question. Est-ce que les médiathèques ou bibliothécaires m'ont sollicité? Je dois dire que la ludothèque que j'ai dirigée pendant un certain nombre d'années est à côté d'une médiathèque. Donc j'ai très souvent travaillé avec elle, même si la démarche n'a pas été toujours facile. Donc, effectivement, le jeu servait de, on va dire, complément d'information et de support différent pour traiter un sujet. Je vais prendre une thématique comme le polar. Nous avions à l'époque organisé des parties de Super Gang. C'était un jeu connu dans les années 90. 90, on va dire. Et donc ça, c'était formidable. Donc manifestation à la médiathèque, manifestation à la ludothèque. On avait des champions de Super Gang, champions de France du Super Gang, c'était super. Donc là, on était vraiment au cœur du sujet. Je ne vais pas citer d'autres exemples, il peut y en avoir plein. On avait aussi travaillé sur Rabelais, les jeux de Gargantua. Donc on a énormément travaillé avec la bibliothèque. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est quand je vous entends parler d'introduction du jeu dans les médiathèques, dans les bibliothèques, je suis inquiète. Je suis inquiète et en même temps ravie, parce que c'est quelque chose que je pressens depuis très longtemps. Je trouve que ces deux supports ou ces nombreux supports sont complémentaires. Les bibliothèques se sont ouvertes dans les années 80 au son et à l'image. Pourquoi pas au jeu aujourd'hui ? Ça me paraît tout à fait logique. Le problème, c'est qu'entre-temps, des ludothécaires ont été formés. Donc, quid de ces ludothécaires qui sortent des formations ? Quid de ce métier de ludothécaire ? J'entends parler dans le rapport de Françoise Legendre de bibliothécaire du jeu. Ben, appelons-les ludothécaires. Enfin, je ne sais pas. C'est toutes ces interrogations que je me pose, auxquelles je n'ai pas de réponse. Je réfléchis beaucoup, mais même si aujourd'hui je suis à la retraite depuis quelques mois, il n'empêche que le sujet, c'est vraiment le... On est au cœur du sujet. À la médiathèque Audi-Sud et ludothèque Audi-Sud, ils réfléchissent justement à ce que sera la médiathèque de demain. Donc voilà, c'est plutôt des interrogations que j'ai aujourd'hui que des affirmations et surtout des inquiétudes par rapport à notre métier pour lequel, effectivement, j'ai milité, je milite encore. Et je pense que il y a un véritable problème au niveau de la formation. À une époque, je m'étais rapprochée de la formation de bibliothécaire pour faire quelques interventions, expliquer ce qu'était le jeu et montrer qu'avec le jeu, effectivement, le livre et le jeu étaient très proches.
Je crois que la question de la formation, elle sera abordée peut-être cet
voilà,
après-midi.
Elle sera abordée cet après-midi, mais c'est une véritable interrogation et il faut que les responsables de formation aujourd'hui en prennent conscience de cette évolution, donc du livre et du jeu, et que va-t-on faire donc, de ces formations de ludothécaires, des ludothécaires en général.
Ils ont acquis des compétences. Peut-être Isabelle, tu peux rassurer Josette.
Alors, c'est vrai que nous, on est tout jeunes. Hein, finalement, 3 ans, c'est quand même pas grand-chose. Et la référence que nous avions à l'époque, c'était toi et ta structure. Donc, on avait tout à construire, à découvrir quand on a commencé en 2013. On est parti billet en tête en se disant on intègre le jeu comme on a intégré la musique, la vidéo, tu le disais. Tous ces métiers-là. Donc, pour nous, c'était tellement évident que les ludothécaires arrivent dans notre structure. Qu'on s'est posé surtout des questions après en rencontrant des étudiants de l'IUT, des stagiaires qui nous ont été envoyés par l'IUT et en discutant. Et c'est là qu'on s'est dit effectivement, est-ce que les ludothécaires ne vont pas être un peu inquiets de notre travail, de ce qu'on fait là en ce moment ? On ne s'est pas posé la question avant, il y avait tellement de boulot. Et puis voilà, on a intégré tout plein d'autres métiers. Pourquoi pas celui-là ? Ça nous paraissait évident et puis indispensable par rapport au jeu. Mais on s'est posé les questions après. On s'est dit comment est-ce qu'ils perçoivent ce que nous faisons, nous ? Alors nous, avec Evelyne, on prône pour effectivement le recrutement des ludothécaires. Et le mot ludothécaire, moi, quand je présente Céline et Adrien au public, je dis bien ludothécaire. On y tient. C'est important. Et puis, j'avais autre chose en tête. Ça va revenir. J'ai perdu le fil, mais quand nous rencontrons des professionnels, et beaucoup nous sollicitent, Josette a fait partie des visiteurs depuis ses 3 ans d'ouverture, des élus, des maires, des bibliothécaires, des ludothécaires. On a vu toutes ces personnes défiler à la ludomédiathèque. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, Johan, on n'a jamais envisagé le jeu et le jouet comme un produit d'appel. Comment faire venir un peu plus de public chez nous. On n'a jamais envisagé ça comme ça, ça c'est sûr. Et c'est bien le discours qu'on tient aussi aux bibliothécaires qui viennent visiter. C'est attention, si c'est pour acheter 3 boîtes et les poser à l'entrée pour dire regardez, on a un truc nouveau à vous proposer. Nous, ce n'est pas du tout notre discours, ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Et en travaillant quotidiennement avec des ludothécaires, nous, on ne peut pas du tout travailler dans cette optique-là.
J'ai une autre question concernant la polyvalence. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure et je le lis dans de nombreux documents justement sur le sujet. Là, je parle en mon nom et avec mon expérience, je suis contre la polyvalence. Parce qu'aujourd'hui, on parle de polyvalence dans tous les domaines. On perd une expertise. Alors, je ne vois pas pourquoi des ludothécaires qui ont appris à cataloguer des jeux, même si le catalogage aujourd'hui commence à être un peu désuet et finira par disparaître, pourquoi nous on sait cataloguer des jeux, je pense que les bibliothécaires ne savent pas cataloguer des jeux et les ludothécaires ne savent pas cataloguer des livres et voilà, vice versa. Donc voilà, cette polyvalence m'inquiète et me laisse perplexe, parce que je pense qu'on a vraiment une spécificité. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Je pense que c'est là, il faut trouver le point de rencontre où personne ne va se sentir défavorisé. Et Dieu sait si nous avons du terrain à gagner, parce qu'il n'est pas tellement occupé en ce moment. Voilà. Donc je suis inquiète.
Tu veux ajouter quelque chose, Isabelle, sur cette question ?
Sur la question de la polyvalence, alors c'est déjà des débats chez nous en bibliothèque qui se posent éternellement. On en reparle sans cesse de la polyvalence. Et de toute façon, à un moment donné, on n'est pas polyvalent. Hier encore, avec Evelyne et quelques collègues, nous passions la serpillière. On se disait, bah, tiens, le métier, la polyvalence, etc. Vous voyez, on fait de tout déjà, effectivement, dans nos métiers. Mais c'est vrai qu'on garde toujours notre base, notre métier, c'est sûr. La polyvalence, elle intervient surtout parce que je n'aurai jamais 10 personnes dans ma ludomédiathèque. Et qu'à un moment donné, il faut pouvoir, à tout moment, renseigner, effectivement. Mais je ne serai jamais autant formée que les ludothécaires et je ne pourrai jamais autant transmettre le jeu et le jouer avec le public, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que, effectivement, nous les ludothécaires, il nous les faut, c'est vraiment du quotidien et c'est ce qui domine dans leur travail. Voilà, la polyvalence, ça intervient vraiment sur des temps courts, je dirais, et des périodes où on a beaucoup de public. Si Adrien et Céline sont occupés sur du jeu, je dois à minima pouvoir dire où sont les jeux d'ambiance pour les enfants, les jeux de mémoire, etc. Mais vraiment, après, le travail de transmission, c'est vraiment le travail des ludothécaires. On est d'accord.
Alors,
moi, oui, il y a des problèmes de logistique à gérer au quotidien.
Je suis en désaccord avec ça, mais l'exercice, je ne suis pas sûre, me permet d'intervenir sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'il y a quand même une troisième voie. Enfin, nos étudiants, là, ils ont acquis des compétences. Ils ne se sont pas enfermés dans un métier. Les bibliothécaires qui ont fait des DU ou je ne sais pas quoi, ou rien du tout d'ailleurs, parfois. La plupart du temps, rien du tout même. Ah oui, très souvent. Mais c'est pas grave d'ailleurs. La formation initiale, elle est ce qu'elle est. La formation continue, elle est aussi très enrichissante. Tout le monde acquiert des compétences et peut-être qu'on peut faire émerger d'autres métiers. Un boulanger, il peut être pâtissier, tu peux faire des gâteaux et du pain très bien. On peut faire des choses très bien. Ça n'est ah bah si quand même, on peut faire des gâteaux et du pain très bien. Ah bah si. Bah oui. Non mais on débattra après. Juste avant ça. Puis de toute façon, j'avais dit que je me la fermerais. Alors, j'y arrive pas, c'est impossible. Je voulais quand même, parce qu'après le temps filoche, et puis qu'après il va y avoir des questions, quand même aborder la question du jeu symbolique et du jeu libre, qui sont deux notions qui ne sont pas tout à fait sur le même plan, mais je voudrais que tu les définisses très rapidement pour les bibliothécaires, les ludothécaires, vous savez ce que c'est, mais les bibliothécaires qui ne connaîtraient pas ces deux notions. Elles ont déjà été un peu abordées, mais un peu plus précisément. Comment ça se concrétise sur le terrain? Et puis après, Isabelle et Johan, comment vous... Vous organisez vos équipes, vous organisez votre travail autour de ces questions.
Alors, cette question m'interroge. Parce que pourquoi le jeu symbolique quand on sait qu'il y a plusieurs types de jeux et Baptiste en a parlé tout à l'heure. Donc, très rapidement, pour ne pas se fixer sur le jeu symbolique uniquement et pour montrer qu'en bibliothèque, si on veut introduire du jeu, il y a toutes sortes de jeux et pas que du jeu vidéo, du jeu de plateau. Ni que du jeu symbolique. On a dit tout à l'heure que le jeu participait donc du développement de l'enfant, de l'individu, on va dire. Donc, les quatre catégories, en gros, ESAR, qui sont exercice, symbolique, assemblage, règle, qui est une classification canadienne que nous utilisons à grande majorité dans les ludothèques. Le jeu d'exercice, c'est en fait juste quand l'enfant naît, il a besoin de s'éveiller à tout ce que la vie va lui offrir. Donc ça va être tout l'éveil sensoriel, moteur, visuel, tactile, etc. Ça, c'est une phase. Et je ne vais pas vous parler d'âge, parce que quand j'entendais parler tout à l'heure de classement de jeux par âge, non, nous, on est contre et on déconseille. Donc on sait qu'il y a une phase de développement des sens. Et ensuite, on arrive à la deuxième phase du jeu symbolique, qui est justement le gamin a développé tous ses sens et là il va regarder autour de lui, il observe, il imite. Donc Baptiste parlait du balai, oui, un gamin qui va balayer, en fait il imite l'adulte qui est autour de lui. Ça, c'est une première phase du jeu symbolique, l'imitation. Après, on va passer au jeu de rôle. Là, le gamin a déjà un petit peu mûri, grandi, et il va pouvoir faire de ce jeu de rôle, mettre en scène des objets, des petits personnages, se mettre en scène aussi, lui. Et là, il va y avoir déjà une certaine réflexion. Et à ce moment-là, il n'a plus besoin de l'adulte, même si l'adulte reste en retrait, très, très bienveillant, très vigilant. Mais les enfants n'ont plus besoin de nous à cette étape de leur développement. Voilà le jeu symbolique. Voilà pourquoi il a besoin aussi d'espace. Voilà pourquoi il a besoin de liberté d'expression. Voilà. Donc, jeu symbolique. Ensuite, on passe aux jeux d'assemblage, qui peut se situer avant le jeu symbolique comme après le jeu symbolique. C'est une catégorie de jeu, puisqu'on empile, on construit. Voilà, je ne vais pas vous faire toute une définition du jeu d'assemblage et du jeu de construction. Et après, on arrive au jeu de règles. Et le jeu de règles, là, l'enfant est soit... Enfin, normalement, il a acquis la parole, il sait écrire, il peut comprendre des règles. Or, aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne parle pas d'âge, parce qu'on veut qu'un enfant vers 3-4 ans commence à jouer aux échecs. Non, mais il a le temps de jouer aux échecs toute sa vie et d'en vivre des échecs en plus. Donc, non, surtout, ne nous pressons pas. Donc, ce jeu de règles arrive à un moment où on peut justement arriver à comprendre et à accepter surtout les règles. Et ce sont les jeux de société. Voilà, je vous ai fait un balayage rapide un petit peu de cette classification et des quatre types de jeux.
Oui, ma question, elle n'était pas innocente. C'est parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, on sait qu'il est présent depuis très longtemps dans les bibliothèques. Voilà, c'est un truc, c'est presque banal. De fait, à mon avis, parce qu'on a mis des ordinateurs et que les gosses s'en servir et que du coup, c'est un peu les enfants ou les jeunes qui nous ont un peu forcé la main à mettre du jeu vidéo. Le jeu de règles, il est plus... Enfin, après, c'est une analyse qui n'est pas forcément sûre, mais il est présent en bibliothèque, à mon avis, parce qu'il est réglable. Parce que tu peux le poser, machin, et tout ça. Le jeu symbolique, le jeu est dans sa liberté, le jeu, y compris le jeu d'exercice, c'est déjà moins évident. Alors, Johan, est-ce qu'il y a des dinettes à Bordeaux? Et si ce n'est pas le cas, à quand des dinettes à Bordeaux?
Il y en a une, mais c'est une grande dans la salle du personnel. Mais bon, non, il n'y a pas de dinette, il n'y a pas d'espace avec des jouets, des jeux. Donc c'est vrai que pour parler de jeux symboliques, c'est plutôt là empirique finalement, ou dans sa dimension plutôt, comme je disais, d'animation. Mais bon, les collègues, puisque j'ai des collègues ici de l'espace jeunesse pour intervenir à la suite. Voilà, c'est plutôt dans les actions d'animation qu'on peut parler de jeux symboliques, où l'enfant commence finalement effectivement à appréhender un petit peu les règles de la vie d'adulte ou se mettre en situation.
Aujourd'hui, vous ne vous êtes pas posé la question de la place du jouet, en fait, pour être un peu caricatural. Non. Vous ne vous en êtes pas encore posé la question. Mais ça viendra peut-être avec votre nouveau. Et alors, chez vous? Bon, on aura la chance de visiter un peu tout ça, mais parle-nous un peu de comment ça se passe.
Alors oui, le jeu symbolique a sa place dédiée, comme n'importe quel, je vais dire document, hein, c'est pas très joli, mais comme n'importe quel document dans la ludomédiathèque. Vous le verrez tout à l'heure, donc le jeu symbolique, on a le coin dinette qui change régulièrement, on a les déguisements, on a tous les espaces avec les... Soufflez-moi là-bas. Les Playmobil et tout ça, voilà. Les figurines, voilà, les univers, me disent mes ludothécaires en général. Voilà, les univers différents. Donc, ils ont vraiment leurs espaces dédiés. Ils changent régulièrement. Le plus gros espace, là, la dinette, change tous les 3 mois à peu près. Et les univers changent à peu près tous les mois. On m'a dit que la frustration avait du bon. Grand débat encore. Mais on ne peut pas tout mettre dans les espaces non plus. Donc, régulièrement, on change tous ces univers. On change les déguisements. En tout cas, le jeu symbolique, nous, on le voit, on l'observe beaucoup. Alors, j'ai appris aussi avec Céline à observer les pratiques, observer l'utilisation de tout ça dans les espaces, aussi bien par les adultes d'ailleurs que par les enfants. On parle beaucoup des enfants, mais finalement les adultes se retrouvent beaucoup dans ces espaces-là, à boire un café, un gâteau en plastique, etc. Enfin bon, voilà, tout le monde participe dans ces espaces. Pour nous, le jeu symbolique, c'est vraiment super important. On voit à la fois des petits garçons, des petites filles se déguiser en princesse, et puis rajouter la perruque du clown, et puis rajouter le pantalon de Spider-Man. Donc, alors le jeu symbolique et le jeu libre, tout ça se rejoint quand même, évidemment. Et on a des anecdotes assez croustillantes, mais c'est important, oui, le jeu symbolique. Alors, je ne vais pas aller dans la théorie de tout ça, et puis d'autres en expliquent ça beaucoup mieux que moi. Mais oui, ils ont leurs espaces dédiés, c'est important. Et on n'empiète pas, et j'essaie avec mes livres de ne pas empiéter sur tout ça, de bien garder l'équilibre dans les collections. Ils ont une partie importante, oui.
Ça te donne envie ?
De me déguiser ou de...
Hein ? Non, mais c'est vrai qu'après, la question du jeu, elle peut être appréhendée dans son ensemble. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, chacun de vous trois, quelque chose que vous voudriez dire avant de laisser la parole à nos petits copains qui, je suis sûre, ont plein de questions ?
Je commence sur le micro. Alors, c'est étonnant parce que les inquiétudes là qui surgissent autour de la table me rappellent une autre journée d'études. Et Elisabeth Ménérian s'en rappellera peut-être. C'était une journée d'études, emploi et formation. On avait mis autour de la table des acteurs sociaux du monde de l'emploi et puis des bibliothécaires. Ça avait été assez tendu, je me rappelle. Où il y avait une peur de part et d'autre que finalement on intervienne sur le champ de l'un et le champ de l'autre. Et en fait, je crois, là, c'est pas pour faire. Ça marche. Il n'est pas interdit, je pense, à des bibliothèques de recruter des spécialistes formés sur des ludothèques. Je pense que c'est important d'avoir des... On a dans nos espaces des spécialistes de tel ou tel domaine, et pourquoi pas justement dans les jeux. Et puis, il n'est pas interdit, et ça se fait beaucoup à la Ludothèque de Bordeaux, de s'appuyer dans nos animations sur des associations, des ludothèques. Nous, on travaille beaucoup, alors c'est classique, hein, sur les Murder Party avec Zombie Crew, ici, sur Bordeaux, avec la ludothèque et l'association Interlude. Finalement, on arrive à quelque chose de plus poreux, on s'apporte beaucoup l'un et l'autre, et puis, effectivement, dans les bibliothèques, on voit bien, on a tous un passé différent, une histoire différente, on peut arriver par différents biais. Je pense que c'est pas du tout antinomique, loin de là, dans nos métiers, en fait, on peut vraiment avoir une porosité intéressante.
Alors moi, je dirais que le jeu, il ne suffit pas d'écrire que c'est un support d'accès à la culture. Il faut vraiment le croire, en être convaincu, déjà. Ensuite, il y a quand même le terme de médiathécaire qui, je pense, ne plaît peut-être pas à tous les bibliothécaires. Ce terme a été créé lors de l'introduction du son et de l'image dans les bibliothèques. Est-ce que... Alors là, c'est... Je n'engage que moi, c'est vraiment une interrogation que je me pose depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que ce terme pourrait regrouper, puisqu'il y avait bibliothécaire son, bibliothécaire image, bibliothécaire jeunesse, bibliothécaire adulte, est-ce qu'il peut y avoir ludothécaire ? Donc tout ça, on aurait médiathécaire, adulte, jeunesse, etc. et jeu. Voilà, je ne sais pas vers quoi vont les médiathèques de demain ou les ludomédiathèques, mais voilà.
Oui, effectivement. Alors nous, depuis 3 ans, effectivement, on a beaucoup de questions qui émergent. Josette se pose des questions, mais nous aussi, effectivement. Et le tout, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre les métiers, que chacun puisse s'épanouir et développer effectivement son métier sur une même structure et ensemble. Donc il y a beaucoup de questions qui émergent, et je pense qu'on va encore beaucoup avoir de rencontres avec Josette, avec d'autres Josettes, comme dit Caroline. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui nous fait avancer dans notre métier, dans notre quotidien, et qui fait que c'est enrichissant. Et que c'est enrichissant pour nous professionnels et que ce sera enrichissant pour tout le public qu'on peut accueillir dans ces structures aussi. C'est ce qui fait évoluer les structures, les professionnels et les idées. Et c'est ça qui est riche et on est très content d'en faire partie. Et j'espère qu'on aura encore beaucoup de discussions comme ça, de questions sur ces sujets-là, des métiers, de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on y va. On est effectivement, on le voit, à un tournant effectivement professionnel. Alors en bibliothèque, il y a beaucoup eu d'évolution et de tournant, et avec les ludothécaires on prend un autre tournant, donc c'est intéressant de vous avoir avec nous pour cette période-là, et j'espère qu'on va pouvoir construire bien des choses avec vous.
Juste, j'ai oublié un élément très important. Alors cet élément important que j'ai oublié, c'est quand même que les ludothèques sont à forte majorité associatives. Donc là aussi, c'est un problème parce que, en gros, hein, on va dire 40% de municipales et 60% d'associatives. Et l'inquiétude va surtout du côté des ludothèques associatives qui n'ont pas les mêmes financements. Voilà, quelle est leur place dans ces nouveaux dispositifs ? Voilà. Encore une question, je suis désolée, je n'ai pas de réponse.
Mais c'est une table ronde qui a posé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Et peut-être vous en avez d'autres, des questions ? Oui, plein ! Super.
On a une là-bas.
Peut-être vous pouvez vous présenter avant qu'on sache un peu qui vous êtes, qui parle.
Bonjour. Bonjour, ça marche ? Donc, Véronique Femme-Diers, en ludothèque pendant 25 ans. Et de quoi parle-t-on ? Enfin, je veux dire, ne nous battons pas. On peut être ravi et inquiet comme Josette, je peux l'être. Mais pour moi, une ludothèque n'est pas une bibliothèque de jeux, ne se borne pas à être une collection de jeux. J'insisterai, moi, plus aussi. Merci, Baptiste, c'est tout à fait passionnant. Il y a la question de l'attitude, de la posture du ludothécaire dans l'offre de jeu, dans le donner à jouer. Donc, moi, je suis une fan de Caroline Matkowska et de sa ludomédiathèque que j'ai visitée, que je vais revisiter. Et je dirais, enfin, juste pour dire, est-ce que c'est possible qu'il existe ? Alors, il faudrait peut-être trouver un autre thème pour les ludomédiathèques, mais est-ce possible que perdure et que l'on crée beaucoup plus de ludothèques, qu'on continue à créer et non pas à fermer des médiathèques, et que l'on découvre ce que c'est que les ludomédiathèques. Caroline, c'est un ovni.
Saint-Médard
aussi. C'est ludomédiathèque, c'est tout à fait intéressant pour nous tous, pour médiathécaires et ludothécaires. Ça apporte ça devrait nous questionner et ça devrait. Est-ce que c'est possible dans la situation économique qu'on vit ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que les ludomédiathèques vont obliger les médiathèques et les ludothèques à devenir encore meilleurs, enfin, je sais pas, à se perfectionner dans leur être et dans ce qu'elles donnent à jouer ? Caroline, tu as dit, quand j'étais venue te voir, que tu aimerais donner à lire comme tu donnes à jouer. Et ça m'a, je t'ai dit que ça me plaisait comme attitude autour de, justement, merci Baptiste, de la disponibilité, de la disponibilité à l'imprévu, à ce qui peut se passer dans ce lieu. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il ne faudrait pas appeler ça ludomédiathèque. C'est vraiment quelque chose, et quand tu présentes, tu dis ce n'est pas une ludothèque, ce n'est pas une médiathèque, c'est autre chose. Je ne sais pas. Ça pourrait s'appeler autrement. En tout cas, ça devrait vivifier toutes les structures qui existent déjà. Alors, on peut quand même être inquiet, s'il vous plaît, par rapport aux ludothèques, puisqu'on a 1200 ludothèques et 16 000 médiathèques, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas normal. Vous, les médiathèques, vous devriez, et madame l'inspectrice générale des bibliothèques, enfin, je veux dire, il faut militer pour que les ludothèques soient mieux connues. Je veux dire, les ludothèques, c'est une... Bon, moi, je viens du monde de la thérapie, des psychomotricités. C'est vrai que il y a de multiples offres hein, en ludothèque, comme il peut y avoir en médiathèque, mais que la posture de l'imprévu, de la disponibilité à ce qui peut se passer par rapport au savoir, madame l'inspectrice des bibliothèques... J'ai lu dans le rapport, j'ai pas retrouvé la page, qu'il y avait les cathédrales de savoir, il y avait les médiathèques qui apportent le savoir, et dans les ludothèques, le jeu, c'est l'activité. Ouais, c'est passionnant. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à créer et à inventer voilà, à partir de ces questions.
Une question qui se fait rapide et courte. Aux ludothécaires, aux bibliothécaires et aux médiathécaires, pas de jaloux, je suis avec mes copains et mes copines.
Et aux ludomédiathèques.
Et aux ludomédiathécaires, pardon. Je suis avec mes petits copains et mes copines et j'arrive dans l'espace jeu et il n'y a plus tellement de place. Et du coup, je vais jouer dans les rayonnages. Je vais jouer avec les livres, qui ne sont plus tellement des livres, mais des objets joués, quelque part ETES. Est-ce que je peux le faire ?
Chez nous, oui, chez toi. Une journée comme mercredi, ça s'installe un peu partout, c'est vrai. Et on voit des pratiques aussi, ce qui est amusant. Alors, on a des anecdotes avec Adrien, Céline, où effectivement, les usages sont détournés. Alors, le père plexus, cette boule transparente dans laquelle il y a un parcours avec une bille. L'autre jour, on voyait une maman qui s'est mise à jouer au bowling, finalement, avec le père plexus. Donc, on a des choses très détournées comme ça qui apparaissent, d'où l'importance d'analyser, d'observer ce qui se passe. Des choses inattendues comme ça, sur des utilisations qu'on n'avait pas prévues. Donc on apprend aussi à gérer ce jeu libre, ces nouvelles activités voilà, qu'on n'avait pas, à laquelle on n'avait pas pensé. Ceci dit, on a souvent des détournements, voilà, avec le livre, avec le jeu, qui apparaissent. Et ça, c'est ce mélange-là sur un même plateau, sur des mêmes rayonnages, qui fait que ça apparaît. Si on avait du jeu dans une salle à part, le livre d'un côté, le jeu à part, on n'aurait pas observé tout ça. Donc ça, c'est très riche d'enseignement aussi.
Ouais, c'est une question hyper importante, parce que le zonage des espaces, le zonage des usages en bibliothèque publique est vraiment fondamental. Et dans la création des bibliothèques, c'est une question qu'on doit se poser tout de suite. Et j'ai vu je ne sais pas combien de projets de bibliothèques avec à l'origine un espace jeu qui finalement se réduisait à portion congrue, parce que les bibliothécaires finalement appréhendaient la question du bruit, appréhendaient dans le sens peur, parce qu'on a beaucoup aussi de bibliothèques aujourd'hui ouvertes, complètement ouvertes. Hein, les derniers projets, et d'ailleurs la bibliothèque de Codéran qui ouvrira en 2018, et comme ça, c'est un espace ouvert complètement, sans cloisonnage, sans cloison. Et donc, dans ce projet-là, par exemple, il y a aussi un espace jeu, mais on sent bien que plus le projet avance, et plus l'espace a tendance à se rapetisser, parce qu'il y a cette crainte, justement, de mélanger les usages et qu'il y ait du bruit. Mais je vois à la bibliothèque de Bordeaux, les récriminations les plus importantes sont du fait des usagers, en fait, hein, pas des bibliothécaires, hein, sur le bruit. On vient souvent nous voir pour dire il y a trop de bruit, parce qu'on parle des ludothèques, mais les espaces musiques, c'est la même chose. Les espaces musiques sont heureusement sonorisés. Voilà. Et quand on fait une animation à la bibliothèque Bordeaux, alors peut-être que c'est particulier, notamment à Mérédec, qui a une fonction étude, mais il y a un nombre important de récriminations à chaque fois, dès qu'on fait un concert ou toute attractivité bruyante.
Bonjour, Philippe Feuillard. J'avais une question, notamment sur la question des publics, en fait. C'est-à-dire que je vois bien les questions de fiches de poste et un peu de corporatisme qui peut relever un petit peu. Mais clairement, nos publics sont les mêmes. J'ai beaucoup de mal à comprendre l'opposition des fiches de poste. Et même, je veux même aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on est dans une posture en bibliothèque. Aujourd'hui, on arrive à sortir un peu, petit à petit, de considérer que les publics sont des cibles et qui peuvent être plutôt des ressources. Et j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans ce travers-là. Donc voilà, si je peux avoir des réponses de la part des ludothécaires sur cette question-là, ça m'intéresse beaucoup.
C'est une fichue bonne question. C'est une question difficile. Les fiches de poste, elles sont quand même différentes. Ce sont des métiers différents, même si on a une partie commune. Ah, ça, c'est important.
Oui, il y a beaucoup de bénévoles en bibliothèque, oui.
Donc, on revient sur le problème des ludothèques aussi associatives, des ludothèques municipales, avec des problématiques totalement différentes.
Mais non, c'est les mêmes, justement.
Oui. Non, mais ce sont les mêmes que vous vivez en bibliothèque, si je comprends bien. Là, de toute façon, il n'est même pas question de fiche de poste. Puisqu'il est presque question de vie ou de survie. Enfin, je ne sais pas, dans ces petites bibliothèques, il faut arriver à faire fonctionner et cohabiter justement tous ces supports avec du personnel qui n'est pas spécialement formé. Alors là, ça va en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la polyvalence. Moi, j'ai pas une réponse, mais vraiment...
Je crois que la question que tu poses, elle est intéressante. Tu ne t'es pas présenté, mais...
Peut-être que si je connaissais l'histoire.
Évidemment. Alors on prend du recul, alors on prend de la hauteur, alors on sait tout mieux que tout le monde dans les BDP. Hein.
Non.
Oui. Oui.
Alors, la question, elle est intéressante parce que c'est effectivement là, elle pose la question d'un point de vue du public, c'est-à-dire quel service on veut rendre à la population au fond, au-delà des fonctions ou des métiers ou des identités, parce qu'elle est un peu identitaire la question de ludothécaire ou de bibliothécaire. Mais quel service on veut rendre au public et comment on veut le rendre et avec quels moyens on veut le rendre, et après les métiers, ma foi, on les inventera ou peut-être
on les inventera pas puisqu'ils existent. Donc, ce qu'on veut, oui, effectivement, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on offre au public ? Que souhaite le public ? Et alors, en plus, en BDP, moi, je me souviens, il y a très, très longtemps, j'avais visité une ludothèque itinérante à Marchand-Famène au Luxembourg. C'était une énorme structure qui était comme une BDP, quoi, mais pour le jeu uniquement, et qui avait une dizaine de camions qui circulaient dans la région pour distribuer et déposer des jeux. Donc là, effectivement, c'était des ludothécaires qui faisaient cette distribution de jeux. Mais aujourd'hui, si on veut répondre à un besoin du public qui veut aussi bien du livre que du jeu, on a de toute façon des professionnels sur les structures qui peuvent répondre à ce que le public attend. Donc c'est pas un problème de fiche de poste. La fiche de poste existera toujours, malheureusement. Le travail est organisé comme ça, le monde du travail. C'est quelque chose qu'on nous a imposé dans la fonction publique. Il y a eu toute une réflexion sur les métiers en général de la fonction publique. Donc là, ben, nous, les ludothécaires, on ne pouvait pas y déroger. On a été obligés de les créer, ces fiches de poste. Et il est évident que la spécificité d'un ludothécaire ne sera pas la spécificité d'un bibliothécaire. Mais par contre, pour répondre à ces besoins du public, ben, il y aura toujours un interlocuteur qui aura cette spécialité. Moi, je me souviens des anciens disquaires, par exemple. Ça n'existe plus, des disquaires, enfin, des magasins de disques, où on avait des gens hyper compétents qui pouvaient nous renseigner sur n'importe quel sujet, à la FNAC au début aussi. Aujourd'hui, on perd tout ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, aussi bien dans le jeu que dans le livre, que dans n'importe quel domaine, on va dire, on a besoin de gens qui connaissent pour pouvoir bien servir un public et pour pas lui donner n'importe quoi à n'importe quel moment et expliquer de n'importe quelle façon. Donc, il faut le public, qu'est-ce qu'on veut ? On veut aussi l'enrichir, on veut lui transmettre des connaissances, que ce soit livresque ou ludique. Donc, il faut les avoir, ces connaissances. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question.